Alors, à ne pas manquer, au cours des prochaines minutes, nous recevrons à 20h Michel Bergeron, 40e anniversaire du moment où il a accédé au rôle d'entraîneur-chef chez les Nordiques de Québec. Bien hâte de renouer avec Michel. Charles Ludon également dans la dernière heure, qui sera à vocation sportive ce soir. Charles qui a contribué au but gagnant ce soir en prolongation en Suisse. Un joueur des Alouettes qui enseigne à des autistes au secondaire parce que pas de football, il faut gagner sa vie, puis il faut aider en même temps. Christophe Normand sera là. Maintenant, beaucoup d'actualités d'ici 20h. Et je vais vous parler de l'alerte COVID, de l'application, parce que le premier ministre Legault a fait un appel, a rappelé l'importance de s'abonner, de télécharger, si vous voulez, là, l'application alerte COVID. Et je veux savoir pourquoi ça ne lève pas plus que ça avec un expert en sécurité informatique. Et je vais aussi ouvrir les circuits pour vous parler tout à l'heure, question de savoir, l'avez-vous pas? Si oui, pourquoi? Et sinon, même affaire à ne pas manquer. Mais d'abord, on va parler de la situation des producteurs agricoles avec le président de l'UPA. Il y a plusieurs sujets sur lesquels je voulais revenir parce qu'on en a beaucoup parlé au printemps en appréhendant la saison qui s'en venait. Comment on l'a traversé la saison maintenant que les récoltes sont à toutes fins utiles, pas tout à fait complétées, mais dans la plupart des cas. Le président de l'UPA est avec nous, M. Marcel Groslot. M. Groslot, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Langlois.
Alors, M. Groslot, l'été, là, par rapport à toutes les appréhensions qu'on avait, si vous pouviez faire le bilan de façon sommaire de toutes les activités qu'on peut retrouver là, sous le chapeau de l'UPA, est-ce que, somme toute, on s'en tire bien ou on a perdu beaucoup de choses qu'on a laissé pourrir dans les champs?
Bon, je dirais somme toute, on s'en tire assez bien parce que, comme quelquefois la nature est capricieuse, mais à d'autres occasions, elle est généreuse. Faut le reconnaître. Alors, on a eu un printemps très difficile, un mois de mai froid et sec, suivi d'un mois de juin très chaud et sec, qui a compliqué l'ensemencement pour les producteurs maraîchers. Par exemple, dans la carotte, ils ont dû reprendre les ensemencements et dans d'autres productions aussi. Ça a compliqué aussi la vie pour les producteurs de céréales comme l'orge, le blé, l'avoine, parce que juin, ayant été très chaud et sec, ces céréales-là ont manqué d'eau, donc le rendement a été très moyen dans ces secteurs-là. Très peu de paille aussi, alors ça, ça n'a pas été très bon pour eux. Juillet, on a commencé à avoir un peu plus de précipitations, donc si je reviens en juin, la première coupe de foin pour l'alimentation des bovins très médiocre. La deuxième coupe en fin juillet, meilleure. La troisième coupe, quatrième coupe, bonne. Alors, c'est pour ça que on a commencé. Il y avait tous les problèmes liés à la COVID et à la gestion et au manque de personnel qui s'est ajouté à ça. Alors, un début de saison très difficile. Ça s'est replacé au niveau météo. Puis, vous avez entendu les nouvelles comme d'autres. Là, on a perdu des récoltes aussi, faute de main-d'œuvre à quelques occasions. Mais somme toute, quand on fait le bilan, malgré une situation difficile, on peut dire qu'on a eu une saison qui va être moyenne.
OK, moyenne. Ouais. Et est-ce que les récoltes sont-elles pas mal toutes complétées au moment où l'on se parle?
Il reste un peu de maïs. Qui va se faire, qui se fait au mois de novembre habituellement.
Là, on n'est pas pressé parce que les champs sont bien plus beaux avec du maïs.
Oui, puis là, en plus, avec la pluie qu'on a, on se presse pas pour aller dans les champs là, parce qu'on brise tout. Alors, si ça peut refroidir et sécher, ça va être plus facile pour la récolte. Il y a encore des légumes qui sont pas récoltés aussi. Les pommes de terre, c'est terminé, les pommes aussi, mais il reste des poireaux, des légumes comme ça qui se récoltent le plus tard possible là, parce qu'on veut en avoir le plus longtemps possible après les moments de la récolte aussi. C'est ça. Il en reste encore un peu, mais on est très avancé.
Quelle production, M. Groslot, président de l'UPA, ont le plus souffert du manque de personnel? Et quelles leçons tire-t-on en prévision du printemps prochain? Ouais. Parce qu'il y a des grosses chances, entre vous et moi, qu'on vive une situation semblable.
Sans l'ombre d'un doute, les producteurs horticoles, producteurs maraîchers et fruitiers, c'est eux qui ont souffert le plus du manque de main-d'œuvre parce que la production horticole demande... c'est très intense du moment des semis jusqu'aux récoltes et on a besoin de la main-d'œuvre qui est entraînée. On a besoin de ces gens-là, les Mexicains ou les Guatémaltèques. Puis on a eu environ 80% de la main-d'œuvre qu'on a habituellement.
Quand même.
Alors, il manquait quand même tout près de 20 % de la main-d'œuvre. Il y a eu, ça a été compensé par des travailleurs québécois, puis je les remercie, là, qui ont été donné un coup de main sur les fermes. Ça a été très apprécié, puis très utile. Mais il reste que ceux qui étaient sur les fermes ont fait des journées plus longues. Les familles ont contribué plus. Je peux vous dire que à ce moment-ci, là, ils ont pas mal la langue à terre, là, nos producteurs horticoles. Là, ils ont eu un été très difficile.
J'imagine. 80 % c'est quand même supérieur peut-être au nombre que celui auquel je m'attendais quand on en parlait au printemps.
Oui, ben, on espérait 70 % de, quand on s'était parlé, M. Langlois, on parlait d'autour de 60. Puis finalement, on a atteint 80 %, mais c'est pas réparti également. Il y a des fermes qui avaient presque 100 % de leurs travailleurs et d'autres qui étaient à 60 %. Alors, c'est là où c'était plus difficile pour certains. Là.
Est-ce que c'est un lien avec la manière que les travailleurs sont traités ou c'était aléatoire
non,
vraiment?
Non, là, c'est vraiment aléatoire. C'est que on a eu plus de facilité à faire arriver les travailleurs guatémaltèques que les travailleurs mexicains. Alors, si votre main-d'œuvre provenait du Mexique, ben il est possible que vous ayez eu moins accès à vos travailleurs que si votre main-d'œuvre était du Guatemala. On a eu des ententes avec le Guatemala qui ont facilité la venue de ces travailleurs-là.
Parce qu'on me dit, on constate dans le domaine de l'agriculture que, dans le fond, le problème de main-d'œuvre, on l'a réglé avec la mécanisation là, de toute l'opération agricole dans bien des cas. Mais il y a des secteurs où ça demeure impossible, comme par exemple quand on parle des fruits, des producteurs maraîchers, des producteurs horticoles. Fait que, si, peut-être juste pour compléter, là, par rapport à l'avenir, comment on s'aligne pour la prochaine saison, probablement toujours en pandémie?
Aujourd'hui, on avait une conférence là avec tous les intervenants du secteur horticole pour préparer la prochaine saison. Puis on va adresser une série de demandes et recommandations tant au ministre, tant au niveau québécois qu'au niveau fédéral pour essayer de préparer ou se préparer le mieux possible pour la prochaine saison. Alors, on est déjà à planifier là, la prochaine saison au moment où on se parle. Il y a eu des... Je dois dire que les gouvernements ont été très collaborateurs là, parce que le problème n'était pas toujours au Québec ou au Canada. Là, c'était vraiment... Le gouvernement mexicain aussi rencontrait des difficultés. Mais on tente déjà de trouver des solutions aux problèmes qu'on a connus cette année parce qu'on anticipe que probablement que l'an prochain, ça risque d'être pareil.
Sous le chapeau de l'UPA, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de cultivateurs, d'agriculteurs. Le domaine d'exploitation de la culture en serre, est-ce que c'est assez exploité au Québec?
Ça va l'être de plus en plus. On veut doubler la production en serre là, au Québec. C'est l'engagement qu'a pris, l'intention que M. Legault a énoncé, puis que le ministère de l'Agriculture, sur lequel le MAPAC travaille aussi. Donc, il y aura, si on obtient de la Régie de l'énergie un tarif préférentiel pour la culture en serre, pour permettre l'éclairage et le chauffage des serres, bien là, c'est sûr qu'on va devenir plus compétitif et il y aura des investissements importants dans ce secteur-là. Alors, c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur aussi qui permet de produire à l'année, comme vous le savez, mais on a besoin d'énergie, puis l'enjeu, c'est le prix de l'énergie pour la production en serre.
Est-ce qu'il y en a qui ont, outre les alumineries ou les grandes entreprises, à votre connaissance, qui ont des taux préférentiels par rapport au prix de l'énergie, puis vous servez-vous de ça pour essayer d'obtenir quelque chose?
Il y a plusieurs tarifs d'électricité, là, selon votre consommation puis et les moments de l'utilisation aussi de cette énergie-là. Nous, en agriculture, on n'a pas de tarif spécifique à l'agriculture. Puis c'est pour ça qu'on demandait d'avoir un tarif spécial pour les producteurs en serre. Alors, la plupart du secteur, le secteur agricole, on est quand même choyé parce qu'on est au tarif D, qui est le tarif domestique, qui est un des tarifs quand même à prix très abordable. Au Québec, on est quand même choyé de ce côté-là. Mais pour la production en serre, lorsqu'on fait une demande importante et qu'on tombe sur le tarif commercial, là, ça devenait non rentable. Alors, c'est pour ça qu'il y aura un tarif préférentiel ou ajusté pour la production en serre. C'est la demande que le gouvernement a fait à la Régie de l'énergie.
Alors qu'on a repris, nous, en soirée, là, un mandat d'actualité par rapport à ce qu'on vit alors qu'on plonge dans une période plus intense de la pandémie, on aime bien renouer avec tous les gens qu'on avait contactés dans la première vague. Ça nous permet, oui, de faire une espèce de bilan des situations, puis comme on va continuer de vivre là-dedans. Et donc, j'aimerais ça vous lancer une question ouverte, puis je vais le faire avec les gens de différents secteurs d'activité, parce que c'est bien enrichissant, c'est tous des points de vue différents. Vous, globalement, comme président des producteurs agricoles, de l'UPA, comme citoyen, trouvez-vous que c'est bien géré, la pandémie? Y a-t-il des choses qui vous ont dérangé, la PCU, la PCRE, des trucs, ou y a-t-il des choses que vous souhaiteriez encore?
Ben, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions des gouvernements pour soutenir le secteur agricole. On n'était pas un des secteurs les plus affectés, là, je le reconnais en même temps. Mais on a des secteurs spécifiques qui ont eu beaucoup de difficultés. Le veau de lait, parce que les restaurants étaient fermés, l'hôtellerie aussi. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des interventions spécifiques ciblées sur des secteurs qui étaient les plus affectés. Ça, j'espère que le gouvernement va corriger ça. Du fédéral en agriculture, très peu d'interventions, et ça, on travaille là-dessus. Mais aussi, la PCU puis les autres programmes pour aider les gens nous a pas aidé dans le domaine
de
la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est évident. Il y a des producteurs, par exemple, qui opèrent des kiosques à la ferme, qui avaient des employés qui normalement revenaient d'une année à l'autre. Cette année, certains ont décidé de ne pas revenir. Ils avaient peur d'attraper la COVID. Ils ne voulaient pas être devant le public pour ces raisons-là. Donc, ils préféraient rester chez eux. Puis, c'est sûr que ça a compliqué la vie, là, ces programmes-là. En même temps que, pour certains, c'était absolument nécessaire. Mais peut-être qu'il aurait dû y avoir... ça aurait dû être davantage ciblé que faire de façon presque générale, là. Alors ça nous a compliqué la vie dans plusieurs cas.
Je vois une manchette de fin de journée sur le site de Radio-Canada, l'effet que les producteurs laitiers réclament les compensations promises par Ottawa. Ça, c'est sous le chapeau des producteurs laitiers du Canada, mais j'imagine que ça vous touche. Les membres sont membres des deux associations, j'imagine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis le Québec est la province qui produit le plus de lait au Canada. Donc on est doublement touché. Puis ça, là-dessus, ils ont entièrement raison, parce que moi, lorsque M. Trudeau et Mme Freeland sont revenus au Canada en disant on a une entente avec les Américains pour renouveler l'ALENA, la journée même, moi, je rencontrais M. Trudeau avec un groupe de producteurs et ils nous assuraient que les producteurs allaient être compensés équitablement et entièrement pour les pertes qu'ils subiraient, parce que, bon, cette entente-là, on nous dit qu'elle est bonne pour le Canada, mais elle a été coûteuse pour les producteurs laitiers, alors c'est tout à fait normal qu'il y ait une compensation pour eux.
Bien, M. Groslot, j'ai envie de faire participer au petit sondage que je vais faire tout à l'heure. Je sors du sujet. Vous, là, l'alerte COVID, avez-vous téléchargé ça sur votre téléphone?
Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me dis que c'est un moyen de plus pour peut-être tracer ou retracer ceux qui ont été en contact avec des gens qui avaient la COVID. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait.
D'accord. Bien, merci. Moi, je l'ai fait tardivement. Je l'ai fait cet après-midi. T'attends, là? Mais je vais faire une entrevue là-dessus au retour de la pause. Merci d'avoir participé. Et bon repos à tous ceux qui, justement, ont travaillé là de façon surhumaine pendant tout l'été pour faire face aux défis qu'il y avait dans les champs chez les producteurs particulièrement. Merci, M. Groslot.
Merci beaucoup, M. Langlois. Au revoir.
Au revoir.